Bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, déjà le milieu de la semaine. Et oui, ça déboule rapidement quand on a des congés fériés. Cela dit, certains d'entre vous ont peut-être entamé les vacances, pour d'autres, ça s'en vient plus tard. Et pour ceux qui sont, qui sont plus occupés l'été, ben, faut-il savoir se déposer quand même, profiter un peu de chaque petit moment, savourer le moment présent. Et oui, je vous invite donc à être des nôtres. Dans la prochaine heure, on goûte tous ces petits bonheurs de l'été. Musique et festivals, cinéma sous les étoiles et l'amour, quelles que soient nos différences. Voici Aime l'été. Et aujourd'hui à l'émission, la 14e édition de Cinéma sous les étoiles de Funambule Média, des documentaires sociaux, politiques, environnementaux qui seront présentés gratuitement dans plus de 15 parcs extérieurs de Montréal et Longueuil. C'est déjà commencé d'ailleurs. Aussi le festival La Noce au Saguenay, qui organise des événements culturels différents, éclatés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en présentant des projets musicaux et d'autres formes d'expression artistique. Un beau festival annuel d'art et de musique. Mais nous allons aussi accueillir notre chroniqueuse Élisane Pellerin, qui couvre cet été pour nous des sujets liés à des situations de handicap. Elle va nous parler aujourd'hui du documentaire « Amour et différence », dont elle fait partie d'ailleurs, du réalisateur Helgi Pecini, que nous allons recevoir à la toute fin de la semaine. Alors voilà donc notre menu de l'été, en fait de Aime l'été, oui, bienvenue à tous! Bienvenue à tous et puis bienvenue à Hubert Sabineau Brunette, responsable de la programmation de Cinéma sous les étoiles de Funambule Média. Bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, et oui, Cinéma sous les étoiles, ça fait rêver, mais aussi ça fait réfléchir parce que c'est pas juste pour nous divertir, c'est aussi pour aborder différents sujets fort intéressants. Alors, c'est une belle programmation. Vous vous spécialisez donc dans le cinéma documentaire.
Exact, cinéma documentaire à caractère social et politique. Donc, ça fait la 14e édition. C'est parti avec l'idée de démocratiser le documentaire, de le rendre accessible le plus possible. Où sont les gens pendant l'été? Ben, ils sont dans les parcs.
Eh
donc,
oui.
L'endroit parfait pour aller rejoindre les curieux curieuses qui savent qu'il y a des projections dans les parcs, mais aussi attraper des gens au passage qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un écran de cinéma qui se déploie tranquillement. Donc, c'est vraiment une façon d'aller chercher un maximum de gens dans...
Un public différent et
exact.
Aussi qui peut être touché par des sujets vraiment à la fois sérieux, graves, mais des sujets fort intéressants, cela dit. Et puis, bon, on va parler de Funambule Média dans un premier temps aussi parce que vous faites plein de choses. Vous êtes une équipe polyvalente, vous organisez des formations, vous vous spécialisez évidemment dans le monde du cinéma. Alors, parlez-nous-en un peu de cette initiative. Comment ça a commencé tout ça?
D'accord, bien c'est ça. Cinéma sous les étoiles, c'est à la base une initiative de la coopérative de travail Funambule Média. Donc, il y a deux organismes, l'OBNL qui fait le festival et la coopérative de travail. Donc, il y a un volet production qui veut permettre à des organismes, à des gens qui veulent faire des vidéos corporatives, des documentaires, peut-être plus de commandes pour aborder certains événements, certaines réalités. Donc, il y a des cinéastes dans l'équipe qui sont déployés pour essayer de faire ces vidéos-là. Puis les formations, on fait des formations avec des écoles, donc pour donner un peu les rudiments de la technique. On pense que le cinéma, c'est un moyen de s'exprimer, mais ça prend aussi une variété de gens qui peuvent s'exprimer par ça. Donc, d'offrir les possibilités de comprendre la technique, comment faire les choses adéquatement pour
c'est pour ça, c'est multidisciplinaire dans le sens que aussi vous formez les gens pour vraiment travailler ensemble. C'est ça aussi. Des fois, on travaille un peu en silo. Et puis finalement, ben là, quand on se retrouve sur une production, la réalité, c'est quand même de travailler tout le monde ensemble. Et là, vraiment, vous avez donc une équipe qui, finalement, c'est ça, vraiment, est déjà formée pour ce genre de travail d'équipe. Et vous parliez justement que vous pouvez vous-même offrir vos services pour réaliser des documentaires. On pense, par exemple, je donne un exemple, la Maison du Père, qui, on sait, qui est investie dans le logement social et qui est dans le but de sortir de l'itinérance des hommes de tous âges et de stabiliser leur milieu de vie. Vous avez réalisé des documentaires, des capsules de quelques minutes pour faire connaître davantage ce que fait la Maison du Père.
Mm-hmm.
Alors, voilà un bel exemple.
Puis en collaboration avec les gens sur place, donc c'est vraiment de penser les concepts, penser les vidéos avec les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, puis leur donner la, la possibilité puis le rayonnement après ça pour la diffusion. Mais oui, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Là. Puis vous avez dit en collaboration, je pense que c'est un terme vraiment important. Le cinéma, ça se fait pas tout seul. Donc, c'est vraiment d'essayer de rassembler tous les gens autour d'un projet puis que tout le monde a sa place aussi.
Au lieu de réunir finalement un peu des gens ici et là, vous vous offrez clé en main, au fond, une équipe qui est prête à offrir des services comme ça auprès de différents organismes. Alors, ben, est-ce qu'il y a d'autres organismes aussi qui... est-ce que ce sont plutôt des ONBL ou enfin...
oui, exactement. On essaie d'orienter nos pratiques sur des organismes ou des gens qui ont les mêmes valeurs que Funambule.
Ben, j'ai dit ONBL, en fait, j'ai inversé les... C'est OBNL, je m'excuse. En fait.
Pas de problème.
Oui, c'est ça.
Mais oui, tout à fait. Donc, on n'est pas là pour donner nos services à des entreprises corporatives. On veut vraiment essayer de se rassembler avec les gens qui nous ressemble, qui partage les valeurs.
Oui, c'est ça. Puis en même temps, ben, pour offrir peut-être des coûts aussi qui sont quand même intéressants. Là. Bon, alors voilà. Ben, donc, à la fois, ben, il y a cet aspect-là de votre travail, mais aussi, vous, bon, dans le cadre de Cinéma sous les étoiles, vous êtes en même temps, vous offrez aussi clé en main des services aussi pour la diffusion, c'est-à-dire vous pouvez, dans le cadre de certains événements, organiser des projections.
Exact. On a tout l'équipement qui est disponible. On a des écrans, des projecteurs, kits de son. On a des techniciens, techniciennes qui sont formés pour arranger l'équipement dans n'importe quel, pas n'importe quel, mais dans la plupart des situations.
Des situations, donc, des contextes.
Donc oui, on a sur le site Internet, entre autres, on a une page qui s'appelle Cinéma à la carte où on a une banque de films où les gens peuvent aller voir si c'est des sujets qui les intéressent, puis on peut organiser des projections à l'intérieur, à l'extérieur.
Ça pourrait être dans le cadre de certaines fêtes, par exemple, hein, des fêtes entre amis, entre voisins aussi, dans certaines petites municipalités. Ça peut être charmant, ça peut être vraiment un projet sympathique aussi, de fêtes, ça peut être des fêtes d'enfants, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est ça, au fond. C'est intéressant, donc je vous demande de bien retenir Funambule Média, c'est important. Vous avez votre site Internet, hein, tout est bien, tout est très clair là, sur votre site.
Oui,
alors, pas de problème.
On espère que c'est clair.
Oui, c'est ça, on peut communiquer avec vous. Alors, parlons de cette programmation cet été. Elle change à tous les ans. Cette année, vous avez vraiment de très, très beaux documentaires.
Merci.
Puis j'aimerais ça qu'on les détaille quand même, parce que, évidemment, ça parle d'enjeux très importants. Et puis, comme je le disais, il y a quand même toujours quelqu'un à la fin de la projection pour amener la discussion aussi sur le sujet.
Exact.
Donc, c'est ça. Donc, on parle d'abord, il y en a qui ont déjà commencé. Malheureusement, vous en avez quatre déjà qui ont été présentés. Donc, il y avait, je pense que celui de Annie Ernaux, là, Les années super 8, hein, ça a été présenté.
Non, c'est ce soir.
Ah, c'est ce soir.
C'est ce soir, donc, courir.
Okay. C'est ça, parce que je les ai tous notés, en principe, là, avec le Ah oui, c'est ça, 5 juillet,
exact.
À 21h15.
Exact. Donc,
c'est sûr qu'il faut que ce soit un peu plus sombre. Là, il faut attendre
le coucher du soleil puis que la température descende un petit peu aussi. Mais
ça, c'est au Parc Laurier.
Parc Laurier, donc un super parc qui est capable d'accueillir vraiment beaucoup de personnes. C'est un film magnifique, une autrice très, très importante.
Française, très connue, très, très renommée, oui.
Donc, on parle de ces vidéos super 8 qui ont été tournées par la famille, puis c'est une réflexion sur comment l'individuel et le collectif résonne. Donc, on a une invitée qui est superbe aussi, qui est une prof de littérature à l'Université de Montréal, qui va nous permettre de mieux comprendre dans quelle perspective ce cinéma-là s'inscrit dans l'œuvre littéraire
de
la réalisatrice.
Oui, c'est ça. Donc, parce qu'elle, ça témoigne de toute une classe sociale en même temps. Ce sont ses archives personnelles, mais c'est ça, en revoyant ces films, d'ailleurs, qu'ils avaient tournés, ça lui est venu à l'idée de peut-être de réunir tous ces films et de donner un sens à tout ça, finalement. Et c'est un beau témoignage en même temps des loisirs, du style de vie, des aspirations d'une classe sociale. En fait, là, on se réfère à une époque là, des années 70, 80 à peu près, là, donc fin des années 60. Alors, il y a tout un contexte, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Il y a un autre film, celui-là, je ne l'ai pas vu, mais il avait déjà été présenté, je pense, dans un festival, hein, c'est ça. C'est pas dans le cadre de Cinémania que ça a été présenté.
Les
années Super 8.
Exact.
Oui, c'est ça.
Exact. C'est en partenariat avec eux.
Oui, c'est ça. Et ensuite, oui, c'est en collaboration avec eux. Il y a aussi, en français, je vais le dire en français, Haute tension à Chinatown. Ça, c'est vraiment intéressant. Je l'ai vu.
OK.
Oui, je l'ai vu, c'est ça, à Montréal. Donc, ça documente la lutte collective pour sauver les quartiers chinois à travers l'Amérique du Nord.
Exact.
Alors, racontez-nous un petit peu.
Ben oui, c'est un film qui est super important parce que tous les quartiers chinois à travers l'Amérique du Nord sont menacés par la gentrification,
déclin, ouais.
par la perte des lieux de vie, des lieux communs dans ces quartiers-là. Il y a aussi le racisme qui joue beaucoup avec la COVID. Il y a quelque chose qui a été exacerbé à ce niveau-là. Donc, la projection a eu lieu malheureusement, mais ou heureusement, elle a eu lieu dans Chinatown. Donc, c'était vraiment fascinant d'avoir cette projection-là qui parle de Chinatown dans Chinatown. Donc, on était vraiment dans un univers immersif. C'est en partenariat avec la communauté, puis ça a servi de levée de fonds pour un organisme aussi qui est très, très, très important dans le milieu. Donc, c'est rare qu'on peut faire des projections qui sont directement dans le lieu concerné, mais... Ça a été vraiment une belle réussite.
Ça a été chouette, oui, cette présentation-là. Mais en tout cas, de toute façon, c'est un film que l'on peut, si vous avez la chance de trouver ce film-là, Haute tension à Chinatown, évidemment, ça réfère à toute une époque aussi, l'implantation de ces quartiers chinois. Dans quel contexte ça s'est fait? C'est très particulier, hein, parce que les hommes venaient souvent ici. Enfin, on nous explique un petit peu toute l'histoire aussi de la migration des Chinois ici à Montréal, enfin, puis en Amérique du Nord. En tout cas, c'est passionnant. Ensuite de ça, bon, il y a aussi il y a un autre film, attendez, là, La très grande évasion. Ça, c'est sur les paradis fiscaux. Puis là, je regarde, je pense que ça aussi, ça a eu lieu malheureusement.
C'était hier, oui.
C'est ça, donc. Mais c'était un beau film aussi, bien évidemment, ça vous donne un petit peu l'idée, au fond, de ce que vous présentez, le genre de sujet. C'est juste, au moins, on peut en parler. Alors ça expliquait les mécanismes des paradis fiscaux ça démontrait comment l'évasion fiscale, là, c'est ça, bon, est à la fois répandue et puis que ça accélère aussi la croissance des inégalités sociales. Hein.
Ah, totalement. Puis c'est un film qui est assez intéressant parce que ça peut sembler aride comme sujet, les paradis fiscaux, mais c'est traité avec humour aussi. Donc, dans certains documentaires qu'on a cet été, on a ce souci-là aussi de voir comment les films parlent aux gens. Donc, je pense que ça fait vibrer une autre corde. Puis,
c'est ça, parce que le film documentaire, en fait, en parlant de ces films-là, ça nous fait discuter aussi du fait que les films documentaires ne sont pas tous lourds. Et justement, vous avez pris soin d'avoir une programmation à la fois variée. Puis justement, il peut avoir de l'humour, il peut avoir vraiment, c'est très bien fait. Donc, ça c'est propice aussi même pour une soirée d'été. Alors,
tout à fait.
Aucun problème.
Tout à fait.
Alors, c'est intéressant. Donc, il y avait eu ce film-là, La très grande évasion. Et puis ensuite, il y a également une première canadienne, en fait, Entre tes mains. Et là, on parle d'agriculture, en fait, de biodiversité, de semences paysannes. Alors, un beau film, ça. Est-ce que ça a été présenté?
C'était hier soir.
Aussi, hier soir.
Oui. Donc, c'est une semencière.
Parce que je regarde, là, effectivement, mon horaire, oui, c'est ça. Bon, alors voilà, mais c'était intéressant quand même parce qu'on présentait un personnage, Marie, qui finalement qui se bat pour préserver ce patrimoine immatériel, hein, des semences parfois qui sont abandonnées ou enfin, du moins, enfin, retrouvées. Conserver cette biodiversité, hein, des semences peut-être qui sont un peu moins répandues aujourd'hui encore. Et puis bon, alors ça, c'est intéressant. Et puis toujours des réalisateurs, des réalisatrices aussi qui parfois ont gagné des prix. Alors vraiment...
Tout à fait.
Alors puis là, bon, là, si je m'en vais voir, là, il y a vraiment, on ne peut pas se tromper, là, il y a le film « Je vous salue, salope
oui. »,
la misogynie au temps du numérique. Parlez-nous-en parce que ça, c'est vraiment, on en a entendu parler beaucoup dans la dernière année de ce film-là. C'est présenté... Demain
dans Rosemont
le 6 juillet.
Donc ouais, un film très très percutant, très 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 difficile aussi à regarder. Je pense que les propos qui sont mis de l'avant sont extrêmement violents envers les femmes. On voit que la misogynie prend une liberté très 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 inquiétante et menaçante sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc ça a malheureusement toujours existé, mais là il y a comme une espèce de liberté qui s'exacerbe, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est des beaux portraits de femmes qui sont victimes
de violence. C'est-à-dire de haine, hein, sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça que ça se passe, des menaces de mort.
Exact.
Ça peut être très, très inquiétant.
Ça va très, très loin.
Oui.
Donc,
oui.
La cinéaste Guylaine Marois se représente à la projection pour discuter aussi avec le public, pour comprendre un peu comment ça s'est construit tout ça, puis pourquoi ce film aussi. Puis c'est un film traite de femmes à travers le monde. Donc, on voit vraiment que c'est un aspect global de la chose.
C'est mondial, c'est mondial, finalement. Oui, c'est ça. Donc, et puis, alors, il y a aussi l'autre, la co-réalisatrice Léa Clermont-Dion, qui ne sera pas là nécessairement, mais on aura l'autre réalisatrice qui sera là, donc, demain, à la fin de la projection.
Oui.
Et ensuite de ça, ben, c'est vraiment bâti un petit peu comme un thriller psychologique. Là. C'est un peu comme ça qu'on l'a bâti aussi en même temps. Et puis, ça démontre un peu toute l'anxiété, cette espèce de chez les femmes qui vivent ce genre de... Enfin, qui ont souvent... qui sont des personnalités connues, d'accord, mais tu sais, qui vivent souvent de la haine sur les réseaux sociaux. Alors, voilà.
Totalement.
Alors, donc, un sujet vraiment très, très pertinent. Ensuite de ça, bon, ça va être présenté au Parc Molson, hein?
Exact, oui. Okay. Et en face du cinéma Beaubien, qui est un de nos partenaires aussi.
OK, d'accord. Et puis, le Parc Molson, oui, c'est ça, c'est le parc en face du cinéma Beaubien.
Exact.
Ah, d'accord, OK,
exact.
C'est drôle, hein? J'avais complètement évacué ça. Bon, parce que je suis une fan du cinéma Beaubien et de ce petit parc que j'y passe régulièrement.
Qui est magnifique, mais qu'on n'a pas les noms nécessairement.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est à 21h15 demain, donc en face du cinéma Beaubien au Parc Molson, voilà.
Oui.
Alors ensuite de ça, bon, il y a aussi, là, je veux juste être sûr, le 6 juillet, on a un autre documentaire présenté. Et c'est ça, donc, Ressources.
Ressources, oui, qui aborde le travail de migrants dans le système de production alimentaire. Donc, comment des humains sont utilisés, des animaux sont utilisés, des terres sont aussi utilisées de manière peu correcte. Fait que c'est un film qui dresse un constat très, très nuancé de la chose, donc il nous laisse quand même aussi réfléchir. On ne nous donne pas tous les informations de quoi penser, mais en montrant ces réalités-là...
On vous laisse réfléchir là-dessus, c'est
exact.
Ça. On met la table juste pour la réflexion.
Oui.
Vraiment, c'est tout au niveau de la chaîne, là, que ce soit de la chaîne d'abattage, transformation de la viande, mais aussi, plein d'autres choses, évidemment, qui concernent le territoire et tout. Bon, en tout cas, bref, intéressant comme propos, comme sujet.
Oui.
Et puis là, est-ce qu'on en oublie, là, effectivement? D'ailleurs, le réalisateur, Hubert Caronguet, a remporté quand même aussi bien des prix hein, dans le cadre de certains festivals.
Exact, ça fait
c'est ça,
pour
d'autres. Oui, c'est ça. Puis pour d'autres films aussi, il a été... Bon, alors voilà, est-ce qu'on en oublie, c'est ça, Hugo?
On en oublie.
Il y en a un autre, là.
Il y a Notes on Displacement qui accompagne des Palestiniens en exil qui s'en vont vers l'Angleterre ou vers l'Allemagne. Je ne me souviens plus exactement c'est où, mais c'est leur périple pour essayer de fuir la guerre. Puis bon,
donc, effectivement, des situations de réfugiés, c'est ça.
On entend beaucoup parler, mais là, de pouvoir le vivre avec un cinéaste palestinien qui décide de documenter ça, ça donne des images à des chiffres et à des
tout à fait, d'autant plus là, qu'il y a, il y a une situation là, actuellement aussi que vivent les Palestiniens en ce moment. Enfin, bon, c'est pas simple là, de ce temps-là. Alors, voilà. Merci beaucoup, Hugo Sabineau-Brunette, là, d'être venu nous en parler. Alors, ce cinéma, donc, en plein air, sous les étoiles de Funambule Média. Alors, et puis, on s'informe, bien sûr, sur votre site Internet. Merci, au revoir
Merci
et
beaucoup.
À bientôt.
Merci.
un simulacre avec cri-cri, genre de messe. Toutes ces mâchoires qui boit, qui claque, qui cherche à mordre. Elle a trouvé sous un rocher une vieille caisse. À l'intérieur, serpent venin qui se dresse. Au bord du drame, on la désire, elle se sent.
La chanson parfaite pour l'écran, c'était Carquois.
Et oui, en lien avec notre cinéma sous les étoiles de Funambule Média qu'on recevait, évidemment, bon, on recevait Hugo tout à l'heure, Sabino Brunette, ouais, qui nous en parlait. Et puis effectivement, ça faisait comme des étoiles dans le firmament, alors merveilleux. On reçoit tout de suite notre chroniqueuse Élisane Pellerin, qui viendra toujours nous parler de, en fait, de sujets en lien avec... le handicap, en fait, quelle que soit sa forme. Et fait, bon, là, on, justement, on a un beau documentaire dont on va parler. Et bonjour, Élisane, d'abord.
Bonjour.
Bon, alors, et tu es au cœur même de ce beau documentaire, effectivement, qui a été présenté à la télé, en fait, qui est disponible sur la plateforme Tout.tv, en passant.
Oui.
Alors, on peut toujours le regarder. Et puis, vraiment, ça s'écoute très, très, très bien. Alors, et puis, oui, c'est ça, comme on disait, beau documentaire, non seulement parce que tu en fais partie.
Oui, mais... non seulement parce que je suis dedans, mais ce que je disais aussi avant d'entrer en onde, c'est que même si je n'avais pas été dedans, je pense que ce documentaire-là est vraiment très juste, très bien fait.
Oui.
Donc, mais l'amour... quelques blagues ne font qu'aider.
Oui, et c'est ça, exactement. C'est, alors, on dit, bon, le sujet, bien sûr, du documentaire, c'est l'amour et la différence.
Oui.
Et vraiment, là, on va aborder un sujet qui est un peu tabou, en quelque sorte, la vie intime, la vie sexuelle, les relations amoureuses quand on est en situation de handicap. Alors vraiment, ça, c'est un beau sujet que sur lequel a travaillé le réalisateur Helgi, tu vas me dire, c'est Pechinen. C'est
oui.
Ça, OK. Parce que vraiment, oui, c'est ça, c'est toi qui me disais comment le prononcer. Alors, cela dit, alors parlons-en de ce documentaire-là. Donc un beau documentaire qui dure à peu près, quoi, c'est un documentaire d'à peu près 45 minutes, enfin, le format télé, là,
oui.
Quoi. Oui. Alors, c'est ça. Donc, parle-nous de ce film. Comment, d'abord, tu as été approché pour faire ce film?
Le documentaire, donc, s'appelle « Amour et différence ». Et donc, ils cherchaient des gens qui étaient différents, dans toutes sortes de différences, tant dans la différence au niveau intellectuel que dans la différence au niveau physique, comme moi qui a un handicap physique à paralysie cérébrale. Donc, c'est vraiment un contact commun, une amie commune qui m'a mis en contact avec lui, qui m'a dit qu'on cherchait des gens différents pour parler de leur situation amoureuse, de parler de leur situation intime et en faire un documentaire. Donc, on m'a mis en contact avec lui, on s'est rencontrés, on s'est parlé. Il m'a demandé ce que je pouvais apporter au documentaire. J'ai raconté quelques anecdotes de ma vie. Puis ça kickait entre nous. On s'est tout de suite compris. J'aimais la façon dont le documentaire était abordé. J'aimais l'histoire de tout ça. Je trouvais que le sujet était pertinent. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. Je suis une des trois protagonistes dans ce documentaire-là.
Dans ce documentaire.
Avec deux autres personnes. Et puis, on a réussi à faire, je pense, un beau film.
Exactement, parce qu'on va avoir aussi le témoignage de d'autres personnes, évidemment, qui sont peut-être moins le centre de l'intérêt, mais quand même qui viennent témoigner de toutes sortes d'autres réalités, bien sûr. Mais, bon, Élisane, c'est ça, toi, tu vas témoigner dans ce film aussi de ta vie, comment ça se passe dans ta vie intime, hein? Tu t'ouvres vraiment. Et puis parle-nous, il y a toi, bien sûr, et parle-nous, il y a François qui lui est atteint de paralysie, pas notre paralysie, mais de sclérose en plaques.
Oui.
Et voilà, ça c'est de un, qui a conçu aussi une application de rencontre. Alors ça, c'est intéressant parce que pour lui, l'amour a toujours été très important. Et finalement, c'est là où il a eu le plus de difficultés dans sa vie. Il en a souffert énormément, qu'il devait évidemment, il avait des relations amoureuses, mais bon, ça ne durait pas, bien sûr, parce que la maladie progressait aussi.
Enfin. Oui.
Alors, c'est ça. Donc, parle-nous des autres personnages. Il y a Marie-Lie également.
Il y a Marie également, qui est une jeune fille d'une trentaine d'années, donc qui a à peu près mon âge, qui vit avec une différence intellectuelle qui est légère, mais qui quand même a dû s'adapter à ça et qui est en couple depuis un peu plus de 2 ans maintenant ou 3 ans avec un jeune homme qui, lui, n'a pas de différence intellectuelle, donc qui, lui, est sans handicap quelconque. Et ils se sont rencontrés sur Internet et puis ils vivent ensemble et sont heureux de ça. Puis la différence de mariée ne fait pas obstacle à sa vie de couple avec une personne qui est typique. Donc, c'est une belle histoire de montrer que les personnes, on pense souvent que les personnes en situation de handicap ou en situation de différence ne se retrouvent qu'entre eux, là, qu'on doit automatiquement être en couple avec quelqu'un qui est comme nous. Mariée prouve le contraire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très... très beau à voir. Puis il y a François avec, c'est ça, son application, qui est une application qui est pour les personnes avec des différences, qui est pas exclusive, mais c'est surtout, c'est comme ça qu'il fait sa marque de commerce, en fait, de promouvoir ça. Et donc, les gens sur ce réseau social-là de rencontres peuvent fièrement montrer leurs différences et ne sont pas gênés de le faire, contrairement à d'autres réseaux de rencontres où on se cache, on ne dit pas de prime abord qu'on est en situation de handicap. Donc, François, lui, sa façon d'aborder ça a été de faire un réseau social où on n'avait pas à se cacher. Donc, réseau social qui a eu quand même beaucoup de succès, qui continue à grossir. Et donc, c'est une autre façon là, pour François de s'affirmer. Et donc, les deux autres protagonistes avec moi là, font vraiment un bon travail pour exprimer leur point de vue. Là.
Tout à fait. Et Lisanne, on s'arrête le temps d'une pause, puis on va discuter de tout cela après la pause. Alors, reste avec moi.
Vous écoutez Aime l'été.
Et je suis en compagnie d'Élisanne Pellerin, qui est notre chroniqueuse et qui nous parle chaque semaine, comme je le disais, de sujets en lien avec certains handicaps. Et là, on parle d'un beau documentaire, Amour et différence, et elle est au cœur même de ce documentaire. Alors, voilà. Et puis, c'est ça, on parlait évidemment des différentes personnes là, que l'on peut voir dans ce documentaire qui, bon, toi-même, tu as un handicap, bien sûr, tu es prof d'université, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, là, il faut quand même bien situer aussi. Tu es chercheuse, alors vraiment, il y avait toute une pertinence aussi dans ta démarche parce que tu es une battante, tu es quelqu'un qui a fait sa place et puis vraiment, et puis, mais dans la vie intime, tu sais, au niveau professionnel, tu réussis fort bien. Alors, c'est merveilleux. Mais effectivement, sur le plan personnel, il y a d'autres défis. Alors, effectivement, parle-nous de, tu sais, t'as pas été gênée de nous parler aussi de ta situation qui, évidemment, bon, toi, t'as tes particularités, mais bon, pour d'autres, ça reste aussi très difficile pour certains, là, encore plus peut-être que toi, parce que quand même, tu es assez fonctionnel dans ta vie de tous les jours.
Oui, c'est sûr que moi, j'ai des difficultés, c'est clair, j'ai des défis. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'être en couple avec une personne qui est en situation de handicap. C'est sûr que pour faire des rencontres sur Tinder ou sur un autre réseau social, c'est plus difficile là, quand on est en situation de handicap. Par contre, c'est sûr que moi, tu l'as dit, je suis quand même quelqu'un de fonctionnel, j'ai quand même une carrière, bon, j'ai des amis, j'ai une vie sociale, ça va quand même bien. C'est sûr que quelqu'un qui est handicap, qui a un handicap qui est beaucoup plus lourd, qui vit par exemple en CHSLD ou qui vit qui a besoin de quelqu'un à 24 heures sur 24 avec lui, on peut imaginer qu'intimité à ce moment-là est un défi qui est encore tout autre que le mien. Ouais. Ou quelqu'un, par exemple, qui a une différence intellectuelle, mais plutôt lourde, on peut imaginer que ça cause des problèmes au niveau de son intimité, puis au niveau de à quel point elle est autonome et à quel point elle comprend ce qui se passe, à quel point elle peut être vulnérable à certains abus. Donc toutes ces questions-là sont quand même pertinentes à poser pour ces personnes-là. Puis c'est pas parce que t'es différent, même avec un lourd handicap ou une lourde différence intellectuelle, que t'as pas besoin de ça, que t'as pas besoin d'amour, que t'as pas besoin de sexualité. Et donc ça pose vraiment une question de comment on satisfait ces besoins-là dans la limite de ce qu'on est capable de faire, dans la limite de la sécurité de ces gens-là. Et donc, c'est sûr qu'on pose moins de questions pour quelqu'un comme moi, mais pour des gens qui sont beaucoup moins autonomes, c'est vraiment une question à se poser en tant que société. Hein.
Ouais. Eh ben oui, puis d'autant plus que, bon, on voit le personnage de Marie-Lee, bien sûr, qui a une légère déficience intellectuelle, mais ça lui a quand même permis de rencontrer quelqu'un qui n'en avait pas, qui était tout à fait... normal, là, bon, qui n'avait pas de problème du tout. Et bon, cette personne-là, ce jeune homme, en fait, s'est quand même intéressé à elle, alors qu'elle était même sur des réseaux sociaux traditionnels, là, finalement. Et oui, alors donc, c'est quand elle l'a rencontré pour la première fois que, bon, tout ça s'est révélé. Mais finalement, bon, ben, il a décidé, lui, de faire fi, du jugement aussi, peut-être, de ses amis, même à lui, finalement, parce qu'il la trouvait intéressante, il la trouvait, quand même, il voyait toute une valeur en cette personne-là, finalement. Et puis, même si elle avait une légère déficience intellectuelle, alors, évidemment, dans le documentaire, bon, on voit qu'elle s'exprime quand même très bien et tout, mais il y a quand même, dans le cas de François, c'est vraiment, c'est ça, un personnage qui vit évidemment avec de la douleur, donc c'est très difficile pour lui d'envisager maintenant, c'était devenu plus difficile d'envisager d'être avec un partenaire parce que ça devenait invivable pour le partenaire aussi.
Oui, donc la cause François, c'est ça, c'est un défi supplémentaire. Dans mon cas, moi, j'ai aussi eu des partenaires dits normaux ou typiques, mais c'est sûr que c'est un défi supplémentaire de gérer ça dans le quotidien, de se faire arrêter à l'épicerie, d'avoir les commentaires de monsieur, madame, tout le monde qui ont quelque chose à dire sur ta vie de couple. De tout ça au quotidien devient assez lourd. Et pour François, ça devenait très lourd de gérer ça, de gérer sa propre douleur, de gérer sa propre maladie. En plus de gérer un couple, pour lui, c'était assez énorme.
Et pourtant, ça a été une quête de toute sa vie parce que finalement, la maladie s'est implantée très tôt dans sa vie alors qu'il avait... peut-être 20 ans, alors ça fait 30 ans au moins qu'il vit avec cette maladie. Alors c'est sûr que ça a été très difficile, il a passé par des étapes difficiles, des grosses peines d'amour aussi, alors c'est sûr. Mais bon, dans ton cas, bon, finalement, est-ce que t'as rencontré quand même des difficultés quand même toi-même?
Clairement, je partage un peu dans le documentaire, mais clairement j'ai fait face à des jugements, j'ai fait face à des questions qui était un peu saugrenu, mais qui en même temps montre à quel point les gens sont peu éduqués. Et j'ai fait face à des insultes. Bon, c'est sûr que je suis pas la personne qui, dans un party ou dans un bar, pogne à plus, on s'entend. J'arrive à tirer mon épingle du jeu là, parce que j'ai des réparties, parce que j'ai de l'humour, parce que j'ai une carrière. Donc j'arrive à me trouver des partenaires, mais c'est sûr que il faut que je travaille beaucoup plus fort que quelqu'un qui est typique, là, très joli, typique, qui va dans les bars très facilement, puis qu'il n'y a pas de problème d'accessibilité comme moi. Là.
C'est ça. Et puis, évidemment, le fait d'avoir une vie relativement normale fait en sorte aussi que ça favorise les rencontres. Oui. Mais quand on est un petit peu plus restreint, qu'on est, comme on disait tout à l'heure, CHSLD, alors comment on fait pour rencontrer des gens, ça pose vraiment un problème.
Ouais. Oui, ça pose un problème. Puis il y a des gens, bon, qui vont se tourner vers la prostitution, vers ce type de personnes-là pour avoir accès à ça, ce qui est illégal encore ici au Québec. Donc, tu sais, ça pose vraiment la question à savoir est-ce que c'est vraiment de la criminalité dans un cas comme celui-là?
C'est ça, c'est l'ultime tabou, je dirais. Hein?
Jusqu'où on met la limite de ces gens-là, jusqu'où on leur permet d'avoir des visites en CHSLD pour ce type de
fréquentation,
que ce soit avec une personne travailleuse du sexe, que ce soit avec un ami quelconque, ça reste très touché pour les travailleurs et travailleuses là-bas, de savoir où mettre la limite, puis de savoir jusqu'où ils doivent s'impliquer dans cette relation-là pour favoriser
un
épanouissement, voilà. Donc, c'est vraiment des questions très profondes, on s'entend, mais c'est des questions qui sont extrêmement pertinentes parce qu'on est en 2023 et on les a très peu adressées encore. Ouais.
Je pense qu'on a déjà abordé, c'est le genre de sujet qui a déjà été abordé par rapport aux travailleuses du sexe, et puis je pense qu'on a déjà eu un documentaire un petit peu à ce sujet-là. Mais c'est l'ultime tabou, évidemment, de permettre... ce genre de service, entre guillemets, et puis, et Dieu sait que ça se fait quand même.
Mais oui, voilà, donc...
c'est ça, faut pas se cacher.
Ils vont quand même le faire, et on les comprend dans l'optique où t'as aucune autre option, tu vas trouver des solutions, ce qu'on ferait, vous et moi aussi, dans un cas comme ça. Donc, c'est sûr que ça pose des défis à différents niveaux, hein, tout dépendant du niveau d'handicap qu'on a, puis tout dépendant de la vie qu'on mène, les défis sont pas nécessairement au même niveau. Mais ce que Agui montre, c'est que au bout de la ligne, dans le documentaire, on est tous dans le même bateau. On est tous des gens qui cherchons l'amour, qui cherchons à entrer en contact. Et puis, on se retrouve tout le monde dans ce documentaire.
Exactement. Donc, ça ouvre les esprits et ça nous fait voir aussi, je trouve que c'est intéressant parce que parmi les autres personnages qu'on va retrouver, qui livrent certains témoignages, on retrouve des gens qui, évidemment, ont des problématiques fort différentes. Chacun est très différent. Et puis, effectivement, des plus jeunes, des moins jeunes. Et puis, bon, on a quand même tout un aperçu des défis que ça pose, finalement. La jeune fille qui est toute jeune, un peu, qui évidemment, est dans un autre monde, qui est pratiquement dans son monde de poupée, là, finalement.
Oui, qui a une différence intellectuelle qui est quand même très lourde, hein, oui.
Mais qui a des besoins et puis qui voit sa face, qui voit tout ça, les relations amoureuses et... qui voit les relations sexuelles à travers son esprit à elle.
À travers
finalement.
Son monde, oui.
Son monde
c'est,
à elle.
C'est beau de voir ça et en même temps, ça nous montre à quel point la perception est différente pour ces gens-là, mais c'est pas parce que la perception est différente qu'ils n'ont pas de besoin.
Et voilà.
Il faut vraiment s'adapter à leurs besoins pour être capable de faire les choses bien qui correspondent à leurs besoins à eux. Et donc, c'est vraiment tout l'esprit du documentaire qui, au bout de la ligne, on va se retrouver un peu tous au même endroit, puis on va avoir une discussion quand même très franche, même avec des personnes qui ont des handicaps plutôt lourds ou des handicaps intellectuels. Il y a une discussion qui est franche, ils aiment en parler, ils veulent en parler, puis il n'y a pas de tabou dans ce documentaire-là.
Et le réalisateur, Helgi Piccini, qu'on va recevoir de toute façon à la fin de la semaine, il va vraiment pouvoir nous expliquer un peu toute sa démarche parce qu'il vous a laissé aller, il vous a vraiment... on voit qu'il faisait preuve lui-même de beaucoup d'ouverture. Alors, ce sera une belle discussion qu'on aura à la fin de la semaine. Il sera parmi nous vendredi. Alors, vraiment, fort heureuse de parler de ce documentaire « Amour et différence » dont vous faites partie. Et puis, ça a été vraiment un apport fort intéressant, en fait, de votre collaboration à ce documentaire. Je te vous vois, là, mais bon, on s'entend. Alors, Élisane, ça a été encore un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Alors, d'autres beaux sujets à venir pour les prochaines semaines. Alors, très intéressant et vraiment tu nous amènes à découvrir, à s'ouvrir évidemment sur une autre réalité et que vivent les gens en situation de handicap et c'est fort intéressant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Élisane, à la prochaine.
À la semaine prochaine.
Oui.
You've got a habit of breaking things, bursting bubbles and hearts on strings. You've got a habit of breaking things, looking for trouble with your list of flames. You've got a habit of using people. You get what you want, no matter what the cost. You've got a habit of using people. You seem in control, but inside.
Alors, c'est fun de parler avec Fred Poulin, oui, qui nous parle de cette fameuse noce, le festival Noce au Saguenay. Bonjour, Fred.
Bonjour, ça va bien?
Ah, ben très bien. Alors, ça se passe dans cette zone portuaire de Chicoutimi. Donc, voilà, c'est jusqu'au 9 juillet. Ça commence demain, le 6. Alors, voilà, parlez-nous de ce festival-là qui n'en est pas du tout à ses premières armes, mais qui est très particulier, vraiment très festif. Une petite histoire quand même fort intéressante qui commence avec vous et Éric Harvey, vous étiez de vieux copains finalement.
Oui, c'est ça, moi et Éric, on est allé au secondaire ensemble. Puis on a travaillé dans le domaine de la musique là, pendant toute notre vie. Puis on a eu l'idée de se réunir pour faire créer un festival dans notre ville natale qui est Chicoutimi.
Eh bien oui, donc un événement, c'est ça qui vous tient toujours à cœur. Là, ça fait c'est donc depuis 2017, hein, je pense que c'est que vous avez amorcé ce projet-là.
Ouais, 2017, c'est notre sixième édition. On a eu une édition 2020 à cause de COVID. On n'a pas eu d'édition. Mais effectivement, on fête nos six ans cette année-là.
Bon, ben écoutez, alors donc, c'est fait dans un esprit de fête, de rassemblement. Évidemment, on est au Saguenay, alors on connaît votre capacité d'accueil et puis votre grande générosité et tout. Alors vraiment, et vous rassemblez bien sûr les artistes et le public. Donc, un beau festival, mais évidemment, il n'y a pas que de la musique à votre festival.
Non, il y a des mariages également. En fait, ça s'appelle le Festival La Noce. Donc, il y a des gens, il y a un hôtel avec un célébrant, un chanteur de noces. Donc, les gens peuvent se marier pour 10$. Ils ont 15 minutes pour faire une célébration.
Mais justement, on va parler de ce concept-là de mariage parce que c'est pas, mais comment se fait que vous êtes arrivé à cette idée-là? Et puis, le nom La Noce, bon, c'était dans l'esprit de fête, d'organiser comme une fête, comme un mariage. Mais en fait, là, parce qu'il y a des faux mariages, mais on peut, il y en a qui se marient pour vrai, là, aussi.
Oui, on en a toujours quelques-uns par année. Là. Je pense qu'on est rendu à 8 ou 9 vrais mariages. Cette année, il y en a un. D'habitude, on en a un petit peu plus, mais cette année, un. Et oui, c'est ça, en fait, les gens, au début, c'était un peu plus cabotin, hein, qu'on peut un peu dire, là, les mariages.
Oui.
Et là, avec le temps, les gens prennent ça super au sérieux, puis les gens qui viennent se faire un mariage ici, là, les gens arrivent costumés, ils arrivent avec des vœux tout prêts. Les célébrations sont très émouvantes. Là, c'est rendu très sérieux, les mariages. C'est vraiment le fun. Ça donne un esprit vraiment particulier là, au festival.
Mais comment se fait que vous avez eu cette idée-là comme ça? Ben, est-ce que vous avez vous-même... Est-ce que vous étiez fasciné par les mariages ou êtes-vous allé à Las Vegas et puis ça vous a inspiré?
Ben non, en fait, notre idée, en fait, on voulait faire le festival. On avait envie de faire un festival de musique un peu déjanté avec beaucoup d'activités. On brainstormait simplement sur le nom, puis maintenant on a dit bon, c'est quoi la plus grosse fête que tu peux avoir, c'est quoi le plus gros party que tu as dans ta vie normalement. Puis là, souvent on a dit bon, ben, c'est souvent le mariage, c'est souvent la fête où tu invites tes amis. Donc on a dit ben, pourquoi pas appeler ça la noce.
Ah, puis après, ben, c'est une bonne
idée. On a vraiment aimé aussi les anniversaires de la noce, c'est-à-dire que tu sais, c'est déjà prédéfini, là, ça prend un an, c'est la noce de coton, la noce de cuir, on a fait la noce de froment. Là, cette année, c'est la noce de bois. Donc, à chaque année aussi, le thème de la noce influence beaucoup comment on fait la direction artistique du site. Comme cette année, c'est vraiment bois. On a fait faire des scies mécaniques en sculpté dans le bois là, de 13 pieds de long et tout ça. Fait que tout le site est décoré en fonction du thème.
Ah, ben ça, c'est fort intéressant aussi. Alors donc, vraiment un festival à découvrir si ce n'est déjà fait. Alors, évidemment, puis ça se tient dans... Bon, à la fois, il y a des festivités, là. Il y a à la fois à la Pulperie, hein, c'est ça?
Oui, le site principal, c'est à la Pulperie. Donc, c'est un site muséal. C'est une ancienne pulpe du début du siècle. Donc, il y a un bâtiment muséal, mais il y a aussi des ruines. Donc, nous, on s'installe dans les vieilles ruines de ça. En fait, ça a été détruit aussi en 1996 lors du déluge.
Oui.
Fait que c'est des vieux bâtiments historiques là, qui n'ont pas de toit et tout ça. Fait qu'on s'installe là-dedans. C'est vraiment très joli. Le site est vraiment magnifique. Fait que c'est vraiment aussi ça qui fait partie du charme du festival là, de venir sur le site.
Oui, c'est ça. Mais écoutez, de mémoire, parce que ça fait un petit moment que j'y suis allée, là. Alors, c'est tout un site aménagé, bien sûr. Mais vous avez la petite Maison Blanche qui n'est pas loin, là.
Oui, c'est ça. On est tout, ben, effectivement, la Maison Blanche est à quelques pas de là. On est vraiment dans un site patrimonial là, de Chicoutimi.
Puis avant de se lancer dans la programmation, après, évidemment, il y a les spectacles qui sont, si on veut, plus organisés, là, mais il y a aussi ce qu'on appelle les « after », c'est-à-dire qu'on peut se déplacer aussi sur la zone portuaire par la suite, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, la zone portuaire, on l'utilise pas. C'était au début de nos premières éditions, on avait des activités là-bas. Mais nous, à partir de 23h, quand les concerts principaux se terminent, il y a des afters qui débutent ici à la Pulperie. On garde des gens sur une portion du site plus petite, dans le Jardin des Vestiges, dans la zone Ubisoft, qui nous permet d'avoir des belles activités. Sinon, on poursuit des concerts au CEM et à la Nuit des Temps, qui sont des deux lieux à Chicoutimi.
OK. Puis là, vous organisez, je pense, des navettes. Hein? On peut se transporter aisément.
Exactement, on a des navettes. Ici, à la Pulperie, le stationnement est assez restreint, à peine 120 places. Donc, on vend ces places-là pour être sûr que les gens qui se pointent sur le site aient un billet préalablement acheté. Sinon, on demande aux gens de se stationner au centre Georges Vézina, qui est un aréna qui n'est pas très loin, là, à 3 minutes de route. Puis nous, il y a 3 autobus qui font la navette constamment aller-retour pour déplacer les gens depuis le stationnement vers le site. Puis en fin de soirée, à partir de 23h, on a des navettes qui vont faire tous les lieux d'after. Donc, ils vont aller des navettes qui vont aller à la Nuit des Temps, des navettes qui vont aller au CEM, puis des navettes qui vont aller à la Pulperie.
Bon,
donc,
parfait.
On s'assure que les gens se déplacent dans la ville de manière
sécuritaire. Oui, c'est ça. Pour faciliter les déplacements et en même temps que ce soit sécuritaire. Alors, 3 jours de festivités, bien sûr. On a, évidemment, on prend nos billets. Alors, on a notre bracelet qui nous permet d'avoir accès si on achète tout les spectacles. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a un passeport, là, c'est ça? Vous avez votre passeport? Est-ce qu'on a perdu monsieur? Oui, c'est ça. D'accord, vous êtes là. Donc, on a manqué votre réponse. Donc, il y a un passeport qu'on peut acheter qui vous donne accès à toutes les activités.
Exactement. Il y a un passeport week-end qui est disponible, qui donne accès aux 3 jours. Puis on a un passeport journalier qui donne à chacune des jours.
C'est ça. Donc, avec le bracelet, là, que c'est comme un tout inclus, finalement, on a le droit à tout. Et puis, bon, parlez-nous, on va commencer à parler de la programmation, effectivement, des artistes des artistes que vous nous faites découvrir, des artistes de la relève, des artistes émergents. Alors, parlez-nous de cette belle programmation.
C'est ça. On est vraiment content de la programmation. Je pense que le public aussi, parce qu'on affiche pratiquement complet, là, à peine quelques vingtaines de billets là, par soir qui restent à vendre. Donc, on a des artistes quand même établis comme Lisa Leblanc, les Louanges, des trucs comme ça. On a aussi des artistes internationaux qui viennent comme Bad Bad Not Good, c'est Chichi. On a Yann Verstraeten, moi, qui est mon coup de cœur absolu là, de la dernière année que j'ai écouté en boucle, qui vient. On a le petit Billy Beau, bref. Puis il y a plein d'artistes à découvrir. En fait, c'est un peu ça. Nous, dans l'équipe de programmation, tu sais, le festival, c'est une portion de notre métier, mais les gens qui sont impliqués dans le festival sont impliqués dans le domaine musical. Puis on fait le tour de la planète, nous, à aller voir plein de concerts, plein de festivals un peu partout. Fait qu'on ramène tous les meilleurs concerts qu'on a vus. Fait que le but un peu aussi avec l'ANA, c'est de que les gens s'habituent à peut-être pas connaître les artistes, mais quand ils vont arriver, ils vont découvrir un excellent artiste en concert, puis ils vont assurément avoir des coups de cœur. Fait qu'on veut établir ça un peu avec nos festivaliers, de nous faire confiance, puis qu'ils viennent découvrir des artistes merveilleux.
C'est ça, parce qu'en fait, il y a des artistes là, qui, justement, vont lancer prochainement des albums ou qui en ont lancé dans les toutes dernières années. Et puis, bon, là, parmi les artistes connus, ben, on n'a pas nommé les Sœurs Boulay. Hein, on pense à, les Sœurs Boulay, Salomé Leclerc. Hein, alors, vraiment des artistes intéressants. Et Bibi Club aussi, ça, c'est vraiment des gens qui aussi se font de plus en plus connaître aussi à l'étranger. Intéressant, ça. Vraiment, ouais, des belles recrues.
Exactement. Je les ai vus. J'ai eu la chance de travailler un peu, d'organiser des concerts avec eux en Europe. Puis la réaction là-bas était vraiment bonne. En concert, c'est vraiment bon. Donc, on a décidé de les faire venir chez nous.
Eh bien oui, il y a Alice, la fille, entre autres, de Michel Rivard, qui est dans ce groupe.
Exact.
Alors voilà, donc il y a du talent dans l'air, évidemment, dans cette famille-là, c'est sûr. Alors c'est vraiment à découvrir, un beau son. Et puis il y a des, bon, le soir, ben justement, en fin de soirée, c'est une autre programmation, d'autres artistes. Et je voyais, bon, Calamine, qu'on a reçu ici même l'an dernier à cette émission, enfin, d'autres artistes aussi à découvrir. Alors vraiment des artistes peut-être un peu moins connus, mais qu'on gagne à découvrir.
C'est ça, il y a vraiment des artistes pour tous les goûts, là, tu sais. Puis normalement, aussi, ce qui est le fun, nous, les scènes s'alternent une après l'autre. Donc, les festivaliers peuvent voir 100% des concerts là durant la journée. Tu n'as pas à faire des choix crève-cœur. Par contre, en fin de soirée, quand on tombe en after, ben là, c'est sûr que les CEM, tu sais, c'est des capacités de 250 à 350 personnes. Donc, c'est place limitée, premier arrivé, premier servi. Mais ici, à la Pulperie, on peut quand même garder là, quelques centaines de personnes également, ce qui fait qu'on peut se promener un peu partout puis découvrir tous les styles musicaux confondus.
C'est ça. Donc, vous avez une belle équipe de bénévoles, bien sûr. Pour les gens qui sont à mobilité réduite, je pense que, bon, vous avez quand même pensé à tout.
Oui, on a deux espaces à mobilité réduite, on a des circuits qui sont faits pour ça, on a des installations vraiment adéquates pour eux. Là, après quelques années, ben on a toujours eu cette quiétude-là de bien les recevoir. On poursuit dans ce domaine-là. Là. On fait tout en œuvre là, pour que tout le monde soit bien accueilli. On a des bénévoles disponibles aussi pour les déplacer à certains endroits quand c'est plus compliqué. Là.
Oui, d'accord. Alors, puis il y avait vraiment ce beau concept. Là. Alors, les gens qui veulent se marier symboliquement, enfin, c'est peut-être une façon, un premier engagement que l'on peut faire à votre festival en même temps avec ces faux mariages, mais quand même, pour 10 $, là, vous pouvez vous engager auprès de votre douce ou enfin de votre de votre partenaire, d'un partenaire qui pourrait devenir éventuellement votre partenaire de vie, on ne le sait pas, mais enfin, c'est à suivre. En tout cas, vraiment un beau festival. Donc, bon, pour les prochaines années, est-ce que vous avez d'autres projets là qui s'en viennent?
En fait, c'est de garder un peu tout ça. Tu sais, ça fait juste, malgré la 6e année, on était sur un autre site avant qui était la zone portuaire. Là, c'est la 3e année. Tu sais, il y a 2021 où c'était une situation particulière avec des enclos. Donc, on commence à bien maîtriser le site. On commence à pouvoir mieux l'opérer. Fait que, dans le fond, c'est de garder un peu cet esprit de fête-là. Je pense que ce que les gens apprécient, c'est justement cet esprit de communion puis tout
ce
qui est là. Fait que ça, c'est souvent ça qui est plus dur à garder. Là.
Donc, on va amener du sang neuf. On va effectivement encourager les gens à visiter la belle région. De toute façon, plein d'activités de ce côté-là, plein d'attraits. Alors, Fred Poulin, ça a été un plaisir de vous accueillir.
C'est pareillement.
Alors, la noce, un beau festival à Chicoutimi pour les intimes. Là, bon, parce que ça s'appelle plus comme ça. Là.
Exact.
Bon, ça a pris un autre nom, mais pour nous, ça demeure toujours Chicoutimi. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, alors merci Fred et bonne journée à vous. Bon festival du 6 au 9 juillet. La noce.
À bientôt.
Au revoir.
Bye-bye.
Et pour terminer l'émission, j'accueille notre recherchiste, bon, qui a fait la recherche pour cette émission. Et oui, Jennifer Ayo-Ando, qui vient tout juste de se frapper, malheureusement. Donc, j'essaie de te faire reprendre ton souffle. Voilà, c'est ça, tu t'es dépêchée d'entrer en studio.
Oui.
Alors, bonjour, Jennifer. Merci pour cette belle émission. Alors,
oui.
Voilà. Et puis, demain, ben, on te retrouve hein, pour une première chronique. Alors, on peut peut-être en savoir un petit peu, là, sur ton sujet.
Ben, moi, je te dis que je suis une passionnée de bouffe. Je mange beaucoup. Puis la chose qui m'a le plus plu à Montréal quand je suis arrivée, c'est la diversité culinaire qu'il y a ici. Puis c'est de ça que je vais vous parler demain.
Ouais, mais toi, t'es arrivée en région hein, pour commencer. Donc,
oui.
Évidemment, la diversité, est-ce qu'elle était aussi présente?
Mais pas vraiment. Tu sais, je mangeais beaucoup de poutine, de frites, d'autres.
Tu as découvert notre culture alimentaire,
oui,
mais évidemment,
oui.
Qui est très vaste, très variée aussi. Alors ça, t'as pu évidemment découvrir ça au fil du temps. Faut dire que t'étais très jeune quand t'es arrivée. T'avais quand même 13 ans, là.
Oui.
Bon, alors c'est sûr, c'est pas le moment idéal pour faire des découvertes culinaires. En tout cas, ben, on va découvrir ça demain avec toi. Alors, Jennifer Ayo-Ando, alors on sera là demain tous ensemble. Merci d'avoir été là, tout le monde, et puis je vous souhaite une bonne journée. Ici Chantal Lavoie. Je vous retrouve demain entre midi et 13h. Merci aussi à Mathieu Tessier qui a fait le choix musical. Hein. Alors, je vous retrouve demain, même heure, Canal M. Après la